permettait aussi de voir qu'est-ce qui est possible d'écouter par l'amplification. Pas que voilà, des micros aériens, mais il y a les hydrophones pour entendre sous l'eau. Il y a aussi les micro-contacts qui permettent d'envoyer les vibrations dans la matière et pas que dans l'air. Bon, et ça, c'était ma manière d'approcher les choses, quoi. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir comment chacun a pu s'emparer de ça. Et c'était très marrant de voir voilà, les approches plus sensibles, tactiles, qui du coup, je pense, ont eu plus de mal à aboutir parce qu'en effet, ça prend peut-être plus de temps d'essais, d'erreurs et de tergiversations que d'avoir une idée conceptuelle forte qu'on va essayer d'aboutir. Voilà, en... Donc, ce n'est pas les mêmes modes d'écriture, comme aussi Amélie le disait. Il y a des modes d'écriture qui sont très différents que dans mon approche, celle que j'ai apprise en tout cas. Mais ça m'a aussi confrontée à la résolution de problèmes techniques, ouais, avec Rémi et William aussi, par exemple, il y avait des travaux, donc, parce que le dispositif que j'avais choisi aussi mettait face à des situations techniques qui pouvaient poser des limites dans l'intelligibilité de la voix, de la situation, et du coup, ça, c'était aussi intéressant de voir ça et de pouvoir y répondre, d'aider là-dessus. Et voilà, donc moi personnellement, ça m'a donné envie dans le musical de me dire qu'il y avait une possibilité de subversion aussi de ce que le musical nous enseignait et nous demandait de représenter et de pouvoir y inclure aussi la voix des gens parce qu'il y a aussi cette idée dans l'écologie sonore, etc., et tout cet héritage aussi qu'on a de s'éloigner de l'humain pour sortir de l'anthropocentrisme, etc. Mais du coup, on efface aussi toute la dimension politique, de rapport de force, du travail aussi, enfin des notions très politiques qui, moi, dans ma vie, m'importent énormément, mais qui, tout à coup, étaient évacuées quoi, dans ma musique, d'une certaine manière. Et voilà, ça m'a très concrètement permis d'évoluer là-dessus, sur des projets à venir, d'ailleurs. Donc, voilà.
Merci. Merci beaucoup, Léa. Merci pour ton intervention et pour ce partage d'expérience. Tu veux rajouter quelque chose, non ?
Non, merci.
D'accord, merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer la parole à François Parra, qui est artiste et enseignant et qui a encadré, accompagné des projets de création et souvent dépêtré un ensemble de situations.
Des fils en premier. Dépêtré des fils. C'est, tu vois, voilà. C'est... Oui, ok. Bonjour à tous. Ceux qui sont là et ceux qui sont ailleurs. Moi, ce que je retiens de cette semaine de workshop, c'est d'abord un grand plaisir à rencontrer des personnes vraiment très différentes, à avoir considéré que les binômes qui se créaient entre artistes et chercheurs étaient un peu comme les deux pieds d'un même corps qui permettaient d'avancer. Voilà, simplement parce qu'il fallait échanger chacun sur ses besoins, ses nécessités, et que ça permettait de donner une direction aux choses qui auraient probablement pas été pour le chercheur celle du chercheur uniquement, de la chercheuse, et qui auraient probablement été pour celui ou celle de l'artiste qui travaillait uniquement sa pratique. Moi, j'ai trouvé que ça nous obligeait à nous décaler et puis à avancer comme d'un pied sur l'autre. Ce à quoi j'ai pensé pendant la semaine, c'est que ça a obligé pour moi à décaler d'une pratique proche de la composition électroacoustique, qui est la mienne à l'heure actuelle, pour aller vers un espace hybride. Je rebondis sur ce que vient de dire Léa. Je pense qu'elle, enfin, je comprends ce qu'elle dit parce que j'ai aussi eu le même type de formation ou de déformation. On le prend comme on veut. Et puis, ça, pour moi, ça m'a permis, et j'étais vraiment content de pouvoir constater ça, que articuler autant de matières sonores par une maîtrise de l'écriture radiophonique proposée par Amélie, par une vraie maîtrise de l'enregistrement proposée par Léa, ainsi que tous les outils et compétences qu'on avait autour de nous, je dis outils, compétences et sensibilité, ça, j'ai trouvé que ça ouvrait à des possibles et des immédiatetés d'une richesse comme on peut pas toujours en trouver dans nos pratiques quotidiennes. Voilà. Parce que là-dedans, je me suis dit, alors on écoute avec quoi, on écoute comment. Par exemple, je pense que pour certains ou certaines d'entre nous, c'était la découverte de qu'est-ce que c'est écouter les sons dans un casque au travers d'un micro et d'une préamplification. donc une espèce de surécoute du quotidien. Je trouve que c'est... enfin, moi, je n'ai pas oublié ma première expérience d'écoute au casque, par exemple. Ça date, mais je ne l'ai pas oublié. Je me souviens encore de ce que ça fait à un moment dans le, ce que c'est que le, l'augmentation de notre appareil d'écoute. C'est je trouve, une expérience assez incroyable. Mais également, qu'est-ce que c'est d'écouter ce qu'on a ramené en studio et enregistré, parce que là, on passe dans la trace. Et je me dis parfois, on oublie que c'est pas la même chose d'écouter en contexte et d'écouter en studio, comme c'est pas la même chose d'être devant un paysage et d'en regarder la photo. C'est des points de vue, c'est les sons qui commencent à avoir des distances, qui commencent à avoir une manière d'être racontée, décrite, montée, mixée. Et je trouve que ces différentes étapes, elles sont intéressantes à découvrir et qu'on les a découvertes, je pense, ensemble, ou redécouvertes, ou réexpérimentées dans d'autres cadres. Donc il y a eu quelques questions qui me sont venues sur quels étaient les sujets de recherche. Est-ce que les sujets de recherche induisaient des formats ou des longueurs ? Est-ce que forcément la parole devait être le point de départ ? Et je trouve que ça ne l'a pas toujours été. Voilà. Est-ce qu'on était dans le domaine du langage verbal ou non-verbal ? Voilà. Quel type de son on allait prendre pour transmettre quoi ? De ce côté-là, je trouve que Léa, tu avais quand même une panoplie de micros qui était assez incroyable, parce que par exemple, le train avec le géophone, c'est... Moi, je l'avais jamais entendu sonner comme ça. Et c'était une première chose que d'aller écouter avec ces dispositifs, que ce soit aller écouter les voix, les sons ou les matériaux. Donc, comment justement on faisait ces prises de son, quels étaient les choix des micros et qu'est-ce que ça entraîne après pour ne pas oublier qu'une transmission radiophonique, c'est l'écoute de son. Malgré tout, dont on est détaché de la source. Donc il faut toujours se dire, mais ce que je suis en train de faire, si je ne suis pas là, ou si je l'écoute d'ailleurs, ou si je l'écoute après, qu'est-ce que ça raconte ? Voilà. Moi, j'ai eu toutes ces choses-là qui me sont... Et je trouve que de ce côté-là, les 9 productions qui ont été faites ont abordé des points de départ et des méthodologies qui étaient spécifiques et qui... permettait de donner forme à des préoccupations de recherche. Voilà.
Merci beaucoup, François. Effectivement, je trouve que on a tous, Léa, tu parlais des déplacements tout à l'heure, et on a tous expérimenté, on a tous vécu et ressenti ces déplacements. Et je trouve qu'il y a une chose, là, à la fois Léa et François, ce que vous venez de dire, c'est que quand on bascule dans l'écoute, on ne bascule pas d'un rapport au monde à un autre, mais on s'ouvre à travers justement la multitude des dispositifs qu'on a, auxquels on a accès, hydrophone, les micros contact, etc., à une multitude d'engagements avec le monde. Et je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant, surtout quand on vient des sciences humaines et sociales, où au-delà d'une vision, enfin d'une approche, le lapsus est intéressant, d'une approche très visio-centrée, on est souvent très textuellement centré. Et là, à travers ce genre d'expérimentation, on redécouvre un peu le monde, c'est-à-dire qu'on reprend un peu de modestie pour pouvoir tout d'un coup découvrir un ensemble de choses. Alors, en parlant des sciences humaines, je voudrais me tourner maintenant vers Anne Tricot et Sarah Andrieux. Anne Tricot, tu es géographe au laboratoire Mésopolis et tu coordonnes le programme Métis. Tu as participé également à la production d'une création sonore. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton expérience et nous dire ce que tu en as tiré et ce que tu voudrais partager ?
Oui, merci. Ben, là, il y a beaucoup de choses qui ont... Pardon. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est, ça complète aussi ce que tu as dit, c'est par rapport à notre pratique de l'entretien en sciences humaines et sociales, où finalement, sous couvert peut-être de scientificité, on rend assez plat les choses à travers les textes, à travers des analyses comme ça. Et finalement, il y a toute une dimension sensible et, scientifiquement intéressante qui nous échappe. Et donc voilà, ça c'est un premier point. Si, par exemple, en réécoutant les productions qu'on a faites ensemble, par exemple, les grains de la voix, les silences. Par exemple, les silences, c'est vrai que dans tout ce qui est écrit, comment on représente un silence? On va faire trois points et deux parenthèses. C'est un peu pauvre. Tandis que là, on écoute un silence et on partage une émotion. Et ça, vraiment, c'est quand même quelque chose qui me paraît très, très intéressant pour la recherche. On entend aussi des ambiances, des accents. Donc il y a aussi toute cette expérience aussi de déplacement, c'est-à-dire la rencontre aussi donc de ces jeunes artistes et ce qu'ils avaient à nous proposer. Et donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire de l'entretien et je suis de plus en plus intéressée par cette dimension sonore de la recherche. Mais pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas très, très à l'aise. Voilà, je découvre petit à petit et ça vient. Voilà, donc des petits constats. Et par contre, enfin, ça m'a apporté aussi cette sensibilité sonore. Je l'ai par différentes expériences, y compris écouter la radio sous toutes ses formes. Et là, il n'y a pas si longtemps, avec Elisa, Maria Elena et d'autres collègues, on est partis au Togo pendant un mois. Ce qui m'a intéressée dans cette mission, c'est aussi interroger ma propre étrangeté par rapport à ce pays que je ne connais pas. J'allais dire ne connaissais pas, mais je ne le connais toujours pas. Ce à quoi j'ai été très, très sensible, c'est justement à cette dimension sonore de la ville, des ateliers, des sons d'oiseaux. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'emporte aussi avec moi de cette mission, de l'expérience qu'on a fait dans l'atelier. Et j'ai envie vraiment de... On a avec Elisa, avec Apolline, on a capté, selon des thématiques, on a capté des sons, des images. Et on est en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire autour de ça. Voilà. Et donc, c'est aussi une des résultats de ce que nous a apporté un peu cette expérience. Voilà. Et puis, il y a aussi la dimension... Ce qu'on oublie aussi dans la recherche, souvent, c'est justement la rencontre, et puis le plaisir, et puis le grain de folie que nous a amené, par exemple, Cédric, qui est quelqu'un, par ailleurs, très, très sérieux, mais là, on l'a découvert aussi très, très rigolo. Et moi, j'ai adoré. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est quand même important dans la recherche, de s'accorder ces moments de liberté et de respiration.
Merci beaucoup, Anne. Effectivement, moi, je suis convaincu que la dimension ascétique de la recherche, qui est souvent pris pour un gage de scientificité, ou de rigueur, peut être un véritable obstacle. L'hégémonie également donnée au discours et au texte, c'est François Laplantine dans Penser le sensible qui nous rappelle que le monde ne se laisse jamais saisir par le seul discours et par les mots. Et je pense qu'on ne peut pas faire de recherche si on n'y trouve pas de plaisir, et surtout, pour reprendre Deleuze, s'il n'y a pas de désir. Alors maintenant, je voudrais passer la parole à Sarah Andrieux, qui est anthropologue à l'URMIS Nice et qui coordonne le collectif Métis aussi, et qui a réalisé une création avec Clarisse Guy. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton expérience? Pardon. Et voilà.
Merci Cédric pour ce passage de micro. Donc je vais essayer de ne pas avoir de fou rire. Non, c'était une vraie joie, un vrai plaisir en effet de prendre le temps de ces 5 journées et le fait d'avoir 5 journées ensemble. Et de déplier en prenant le temps et de construire ce collectif, c'est, je pense, à la fois précieux, à la fois nécessaire. Donc oui, il faut qu'on puisse, s'accorder ces moments-là pour produire voilà, peut-être d'autres types de savoirs, des savoirs qui mettent plus de temps à émerger. Donc ça, c'est une première chose. Je le savais déjà, mais c'est assez compliqué de pouvoir l'appliquer. Donc là, j'étais bien contente de pouvoir passer ces 5 jours et de découvrir et de créer cette petite communauté entre générations différentes, en effet, entre étudiants et chercheurs, artistes, documentaristes sonores, et puis voilà, avoir aussi être dans une place d'apprenti. Quand on transmet, moi je suis enseignante chercheuse, donc et j'aime enseigner, donc c'est aussi me poser aussi des questions sur comment est-ce qu'on enseigne. Et donc j'ai trouvé ça, j'ai retiré beaucoup de choses de ce que vous avez mis en place, Amélie et Léa. Donc voilà, toute cette place donnée à la pratique, à l'expérimentation. La question d'ouvrir des possibles sans forme imposée. Et là, cet après-midi d'écoute, elle était magnifique parce qu'en même temps, vous ne nous avez pas donné des modèles, c'est ça. Il faut tendre vers ça, ou il faut tendre vers ce type d'écriture. Et donc, c'était aussi nous dire c'est extrêmement divers, il y a un champ des possibles énorme. Et nous, on ne va pas faire cette forme-là ou cette forme-là, où tout est possible. Et ça, j'ai trouvé ça très beau de se dire tout est possible et il y a beaucoup de possibilités. J'utilisais beaucoup la vidéo. Bon, je travaille sur la danse, donc c'est bien de voir les corps ensemble. Et donc, c'est vrai que dans mon enseignement, j'utilisais déjà beaucoup la vidéo. Et là, du coup, j'ai utilisé beaucoup de podcasts, et de mettre en place ces sessions d'écoute, et du coup ça crée une écoute dans un amphi aussi, de se mettre à l'écoute ensemble. C'est une des choses qui, c'est une petite graine que j'ai pris après le workshop. Il y a la question du déplacement qui a été évoquée à plusieurs reprises là, par les uns et par les autres, la question de remettre en question ses routines, ses certitudes méthodologiques. Alors moi, j'ai travaillé avec une jeune étudiante de l'école d'art qui travaille sur des pratiques de danse, qui est une danseuse elle-même. Donc on avait un âge très différent, mais en même temps cette question de peut-être d'un rapport au corps, en tout cas d'une place singulière à accorder au corps dans notre vie et dans nos recherches. Et donc, on s'est déjà très bien entendues toutes les deux. C'était très beau, cette rencontre. Et on était à fond toutes les deux sur l'idée d'expérimenter et de vraiment s'ouvrir à tout ce qu'on nous offrait. Donc tous les micros de Léa, on avait envie de les tester, tous les effets de montage, tout. Et donc, moi, je me suis assez laissée guider par Clarisse, je trouvais ça beau, et elle était très dynamique, et donc ça me permettait aussi de me laisser entraîner. Et donc notre idée, on n'a pas du tout réussi, c'est un échec complet, mais notre idée, c'était de me rendre sensible cette expérience d'une balade en bord de mer. Donc ça, c'était notre idée théorique. Ensuite, on est arrivé, donc déjà on avait l'idée de se poser sur une plage, sauf qu'il n'y a pas de plage à Niolon. Donc on s'est dit, il n'y a pas de plage, donc on ne va pas pouvoir faire nos fameux enregistrements des pieds qui s'enfoncent dans le sable. Et donc on s'est adapté aussi au lieu. Et ce qui a été assez contre-intuitif pour moi, un peu comme ce que tu disais Léa tout à l'heure, ce n'est pas du tout ce qu'on m'a appris à faire. Et c'était de découvrir un espace en faisant fi de ses habitants, En anthropologie, on va découvrir un lieu en causant. En fait, on est des grands